Bonjour, bonsoir, selon de quelle partie du monde vous nous écoutez. Qui vous parle, Éric Domergue, vous donne la bienvenue à un nouveau programme en français de RAE l'Argentine vers le monde. Avec la production de Silvana Avellaneda, Julián Cortés et Pedro Araos, responsables du web, et sous la direction de Adrián Corol, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles sur le pays et la région. Maintenant, place à l'actualité préparée par Fernando Farias. Le ministre argentin de l'économie, Sergio Massa, a été reçu à Brasilia par le président Lula da Silva. Dans ce contexte, il a assuré que les deux pays d'Amérique du Sud sont des partenaires indissolubles. Lors d'une conférence de presse, il a ratifié le fait que la Corporation Andine de Développement garantira les opérations commerciales bilatérales entre les plus grands partenaires du Mercosur. L'entité soutiendra les transactions à hauteur de 600 millions de dollars afin d'aider à préserver les réserves en devises de la Banque centrale argentine. Le ministre a également remercié le président brésilien pour son soutien à l'entrée de l'Argentine dans le bloc des BRICS qui a eu lieu la semaine dernière, mesure qui est résistée par la droite argentine, selon RFI.
Comme 5 autres pays, l'Argentine va faire son entrée dans les BRICS, le club des pays émergents composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. L'adhésion sera effective le 1er janvier 2024, mais cette entrée divise la classe politique, Théo Conscience.
Faire partie des BRICS nous rend plus forts. Le président argentin Alberto Fernandez s'est félicité hier matin de l'entrée de son pays dans le club des puissances émergentes, qui ouvre selon lui de nouvelles perspectives économiques à une Argentine surendettée.
Les BRICS, de par leur énorme poids institutionnel et financier, jouent un rôle déterminant dans l'urgence de concevoir une nouvelle architecture financière mondiale qui prenne en compte les besoins de croissance, de commerce, d'investissement et de bien-être social.
Quelques heures plus tard, devant un parterre de chefs de grandes entreprises, la candidate de l'opposition de droite à l'élection présidentielle d'octobre, Patricia Bullrich, a quant à elle critiqué cette adhésion aux BRICS.
Le président de la nation vient d'engager l'Argentine à entrer dans le groupe des BRICS alors que l'invasion de l'Ukraine se poursuit. Nous croyons en un ordre international basé sur des règles pour préserver la paix et le respect du droit international. Sous notre gouvernement, l'Argentine ne sera pas dans les BRICS.
Le candidat anti-système et ultra-libéral à la présidentielle Javier Milei, actuellement en tête des intentions de vote, avait pour sa part déjà fait savoir qu'il comptait tourner le dos au Brésil et à la Chine pour se rapprocher des États-Unis.
Au Guatemala, le tribunal suprême électoral a ratifié la victoire du président élu Bernardo Arevalo lors des élections du 20 août. Pourtant, un tribunal a suspendu son parti politique de gauche, Movimiento Semilla, pour avoir prétendument falsifié des signatures en 2018. Bernardo Arevalo rejette ces accusations et maintient qu'elles font partie d'un complot visant à le priver d'assumer la présidence le 14 janvier 2024. La campagne de l'opposition vénézuélienne en vue des primaires a débuté le 22 août. Le scrutin prévu en octobre prochain désignera un candidat parmi les 13 en lice pour représenter toute l'opposition face au président Nicolas Maduro en 2024. Un rapport de RFI.
Et cela n'était pas arrivé donc depuis 10 ans au Venezuela, l'union de l'opposition. Hier, la campagne en vue des primaires a débuté officiellement. Elles doivent permettre de choisir le 22 octobre prochain le ou la candidate qui se présentera face au président sortant Nicolas Maduro lors de la présidentielle de 2024. C'est donc un moment historique pour la vie politique du pays.
Le compte à rebours a officiellement commencé hier. Dans 60 jours, il faudra déterminer qui des 13 candidats sera celui ou celle qui représente toute l'opposition face à Nicolas Maduro, le chaviste au pouvoir depuis 2013. En tête des sondages, Maria Corina Machado, conservatrice la plus radicale des anti-chavistes. Face à sa popularité croissante, elle a été inhabilitée à occuper un poste public par la justice, inféodée au pouvoir en place. Vient ensuite Enrique Capriles, également inéligible. Il s'est exprimé hier sur ce qui attend les candidats.
Il y a 5 millions de retraités qui gagnent 5 dollars par mois. La primaire n'est pas la priorité dans la tête des gens. Notre grand défi, c'est la participation. Nous avons 8 semaines pour que le pays connaisse les candidats.
Il faudra donc convaincre les Vénézuéliens de se déplacer dans les quelques 3000 lieux de vote habilités dans le pays, auxquels s'ajoutent des bureaux dans 80 villes à l'étranger. tout a été organisé sans l'aide du Conseil national électoral qui n'a pas la confiance de l'opposition. Difficile de savoir si les électeurs s'intéresseront au scrutin face à une opposition qui a longtemps été divisée et a même boycotté plusieurs votes nationaux. Et une question reste entière, comment présenter aux élections présidentielles un ou une candidate déclarée inéligible ? Alice Campagnol, Caracas, RFI.
Et le scrutin pour ces primaires se tiendra donc le 22 octobre prochain.
Le gouvernement chilien lance un plan de recherche des personnes disparues pendant la dictature d'Augusto Pinochet. L'initiative a été présentée par le président Gabriel Boric peu avant le 50e anniversaire du coup d'État du 11 septembre 1973. Selon diverses sources, plus de 11 000 personnes ont été enlevées par le régime militaire et seuls les restes de 307 personnes ont été retrouvés. Ce chiffre doit nous faire souffrir et nous brûler les sangs, car il montre l'ampleur de la dette que nous avons en tant qu'État et en tant que société, a déclaré le président Boric. Il s'agit de la première initiative officielle de ce type au Chili. Parallèlement, la Cour suprême a condamné sept anciens officiers militaires pour l'assassinat du poète Víctor Jara il y a un demi-siècle. Les condamnés devront purger une peine de 8 à 25 ans de prison pour les crimes d'enlèvement et de meurtre. Jara est décédé quelques jours après le coup d'État du 11 septembre 1973 qui a renversé le président socialiste Salvador Allende. Il avait été enfermé dans le stade national que les militaires avaient transformé en camp de concentration. Là, il a été torturé puis abattu de plusieurs dizaines de balles. Quelques heures plus tard, l'un des condamnés, l'ex-brigadier Hernán Chacón Soto, 86 ans, s'est suicidé. Selon des sources policières, alors qu'il était sur le point d'être arrêté à son domicile de la capitale Santiago, il a demandé des médicaments et en a profité pour se tirer une balle dans la tête.
Au Chili, c'est une décision historique qui fait la une des journaux. La condamnation de sept anciens militaires pour le meurtre du chanteur populaire Víctor Jara, enlevé, assassiné au lendemain du coup d'État du général Pinochet.
À deux semaines de la commémoration des 50 ans du coup d'État, souligne la Tercera, sept anciens soldats écopent de 8 à 25 ans de prison pour enlèvement et homicide sur la personne du chanteur et sur celle de Litre Quiroga, le directeur de prison du gouvernement de Salvador Allende. La Cuarta rappelle que le 12 septembre, les militaires s'étaient emparés de Víctor Jara, qui donnait des cours à l'Université technique d'État. Les militaires le reconnaissent immédiatement et commencent à l'attaquer et l'insulter, écrit le journal, qui rappelle que Jara et Quiroga ont été séparés des autres prisonniers et soumis à de cruelles tortures.
Et après la décision de justice, la rédaction en espagnol de RFI a pu recueillir la réaction de l'avocat de la famille, Nelson Caucoto. Écoutez.
Au sein de la société chilienne, les avis sont partagés au sujet de ces condamnations. Mais je pense que personne ne pensait que nous arriverions à un tel résultat. Personne ne croyait que la justice ne parviendrait à ces condamnations exemplaires, même si, à mesure que les années passaient, on voyait bien que les différents tribunaux en appelaient fondamentalement au droit international. Ils ont fini par trouver le chemin pour arriver à cette issue et aujourd'hui on ne pouvait pas espérer mieux après tous les obstacles qu'ont rencontrés les enquêtes pour la résolution de ces crimes auxquels l'État a lui-même participé. Et l'on peut considérer qu'en étant lui aussi coupable de ces crimes, l'État a pu se sentir contraint de ne pas participer à leur résolution. On a pu le constater dans d'autres affaires à l'échelle nationale ou internationale. Nous assistons aujourd'hui à la réalisation du destin de tous les procès concernant les droits humains, avec ces peines très lourdes à la hauteur de la gravité des faits commis, condamnation de l'homicide mais aussi des enlèvements, et de ce point de vue, les familles sont satisfaites.
La réaction de l'avocat de la famille du chanteur. Ces condamnations des militaires, Christophe, elles surviennent non seulement à l'approche de la date anniversaire du coup d'État, mais aussi à un autre moment symbolique pour le Chili, lui aussi lié à la prise de pouvoir du général Pinochet, puisque l'Université de Santiago du Chili a inauguré hier une exposition très particulière.
Oui, avec 50 ans de retard, raconte El Mostrador. Paul La Vida Siempre devait alerter sur les périls d'une guerre civile et de la chute de la démocratie, raconte le journal. Elle devait être inaugurée le 11 septembre par le président Allende, qui devait annoncer un référendum pour trouver une solution à la crise politique traversée par le pays. Mais elle a été bombardée en même temps que le bâtiment principal de l'université. Et Víctor Jara devait être là lui aussi. Ce lundi, c'est Gabriel Boric qui était à l'inauguration, écrit la Tercera, qui cite le président. Aujourd'hui, avec la réinauguration de cette exposition, nous donnons une continuité à l'histoire. Nous nous souvenons aussi de nos morts, qui sont les morts du Chili et qui chantent la vie.
Levantate y mira la montaña.
de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma.
Par ailleurs, à l'occasion de la publication de la bande dessinée Victor Jara, La Voix du Peuple, en septembre 2020, Amnesty International a interviewé son auteur, Maxence Emery.
Victor Jara, c'est un chanteur populaire chilien. C'est un gars qui a vécu dans une famille très très pauvre, dans un petit village du Chili qui s'appelle Lonquen. Au début, il a appris la guitare avec un prof que sa mère hébergeait, en échange d'une chambre. Il faut savoir que sa mère aussi jouait de la guitare, donc il était vraiment dans un milieu musical. Et de plus en plus, en voyant les problèmes, tout ce qui se passait, les injustices qu'il y avait au Chili, il a commencé à écrire. Pour le Chili, c'est un symbole de liberté, c'est un cri, presque. C'est celui qui, déjà avant la dictature, s'est opposé aux injustices, à la droite. Lorsqu'il y a eu le coup d'État, directement, il est parti rejoindre les autres à l'université, voir ce qu'il pouvait faire. Il a été arrêté, ils l'ont reconnu assez vite. Il savait qui c'était, il savait ce qu'il représentait. Donc les militaires, ils l'ont enfermé dans un stade. Et là, ils l'ont torturé. Il a été tué 44 balles dans le corps. Donc voilà, c'est le symbole des injustices et des disparus, des torturés. Après sa mort, sa femme, Juan Jara, est partie avec leurs deux filles. Elle avait après lancé une fondation, plein de trucs pour continuer de parler de Victor Jara et de ce qui s'était passé. Et voilà, elle a continué de mener le combat jusqu'à maintenant. C'est un symbole, on n'y touche pas. Il est extrêmement important, et on le voit notamment quand il y a eu le procès de ces assassins. C'était des années, des décennies pour les retrouver dans la rue. Il y a plein de gens qui sont venus, qui sont venus à chanter ces chansons au pied de l'immeuble où il y avait un de ces assassins, en fait. Donc c'est dire, oui, comment il est, à quel point il est important. C'est moi qui ai proposé le projet. C'est, en gros, ça part de lecture. Quand il y a un truc qui me touche, et qui je sens qu'il peut être intéressant en bande dessinée. Il a une vie qui est admirable. Quand on l'entend parler, il a une voix douce, il est mouvant, il a une réelle sensibilité, il a une vraie intelligence dans ses choix de vie. Et c'est un parcours de vie qui est quasiment exemplaire, en fait. Et donc, inévitablement, ouais, ça m'a intéressé, j'ai voulu en savoir plus. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la technique du flash forward, c'est-à-dire qu'au lieu de faire des flashbacks, de revenir en arrière, je me suis dit que j'allais couper la BD avec des sauts dans le futur. Donc on la commence, on comprend qu'il est mort. Et petit à petit, en fait, le présent de narration va rejoindre le futur et on va comprendre ce qui s'est passé. Ce que je veux, c'est pas que le lecteur retienne quelque chose, mais c'est qu'il fasse quelque chose, qu'il se questionne notamment déjà sur l'histoire du Chili, donc il aille voir ce qui s'est passé, pourquoi Allende s'est suicidé, comment on en est arrivé là. Peut-être que là, après, il va se rendre compte que les États-Unis sont intervenus, et ensuite qu'il ait envie, surtout, de lire des livres, en fait, sur le sujet. Qu'il ait la curiosité de se dire, ok, là, il y a eu ça au Chili, mais qu'est-ce qu'il y a aussi dans d'autres pays du monde? Et est-ce que je vais pas me poser des questions sur d'autres injustices. C'est quand même des gens qui se sont dit à un moment, il y a un problème, on va essayer de faire avancer à notre échelle la société. Ce que je dis souvent, c'est que parfois une personne peut changer, ou en tout cas peut se poser des questions et agir pour le monde, en écoutant une chanson, avec une rencontre. Et je me dis que si cette BD peut faire que les gens vont se questionner et après vont se renseigner, alors c'est tout ce qui compte, c'est que j'aurais réussi, en fait.
El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar, más allá del ancho mar, donde
tan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz.
On aura l'occasion de faire un programme spécial sur les 50 ans du coup d'État au Chili la semaine prochaine. En attendant, TV5 Monde retrace la mort douteuse du poète et prix Nobel de littérature Pablo Neruda dans un entretien avec la journaliste et ancienne correspondante au Chili, Lori Facho Sigan, autrice de Chambre 406, l'affaire Pablo Neruda.
Le 23 septembre 1973 disparaissait Pablo Neruda, le célèbre poète chilien et prix Nobel de littérature. 50 ans après, on ignore toujours les circonstances exactes de son décès. Dans Chambre 406, l'affaire Pablo Neruda, Lori Facho Sigan, journaliste et ancienne correspondante au Chili, nous plonge dans une enquête historique et elle est notre invitée. Bonjour, merci d'être avec nous. Donc je le disais, le 23 septembre 1973, Pablo Neruda meurt dans une clinique réputée à Santiago du Chili, officiellement d'un cancer de la prostate, c'est en tout cas ce qui est indiqué sur son acte de décès. Puis il y a eu des rumeurs, des doutes. À quel moment ?
En fait, il y a une partie clé dans l'ouverture de l'enquête judiciaire autour des circonstances de la mort de Pablo Neruda. C'est l'ancien chauffeur de Pablo Neruda, Manuel Araya, qui en fait a toujours dit que son patron avait été assassiné. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé à donner des interviews. La première date de 2004, j'en parle dans le livre. Mm-hmm. Et ensuite, mais elle n'a pas eu d'écho. Ensuite, il y a eu une autre interview donnée en 2011. Et c'est à ce moment-là que le Parti communiste chilien a décidé de porter plainte pour homicide de Pablo Neruda.
Et vous-même, vous l'avez rencontré, le chauffeur de Pablo Neruda. Et que vous a-t-il dit exactement ?
Alors voilà, oui, j'ai effectivement rencontré plusieurs fois Manuel Araya, qui malheureusement est décédé récemment. C'était le 20 juin. Et en fait, Manuel Araya explique que le 23 septembre, il était reparti dans la maison de Pablo Neruda et de son épouse, Mathilde Urrutia. C'est une maison qui est à Isla Negra, à 1h30 de route à peu près de Santiago. Et en fait, cette journée, c'était la veille du départ de Pablo Neruda et de son épouse au Mexique, un peu pour fuir cette nouvelle réalité chilienne qui était la dictature d'Augusto Pinochet. Et ce que Mathilde Urrutia, la veuve de Neruda, raconte, et Manuel Araya, c'est qu'en fait, Mathilde dit qu'elle a reçu un coup de fil le 22 septembre. Manuel Araya date ce coup de fil du 23. D'accord. Ils auraient reçu un coup de fil à l'hôtel à côté de la maison, vu que la maison n'avait pas le téléphone. Et Pablo Neruda leur aurait dit « Revenez tout de suite, je ne me sens pas bien, on m'a fait une piqûre, je me sens mal. » Donc à ce moment-là, le chauffeur est retourné à la clinique Dardar avec l'épouse de Pablo Neruda. Et là, Manuel Araya raconte qu'un médecin lui a demandé d'aller acheter un médicament que la clinique n'avait plus. Et à ce moment-là, il raconte être sorti de la clinique pour aller à une pharmacie en voiture. Et là, il a été arrêté par les forces de l'ordre et conduit au stade national où il a été torturé pendant plusieurs jours, pendant 30 jours environ. Et ce jour-là, donc, à 22h30, Pablo Neruda est mort.
On lui aurait fait une piqûre au niveau de l'estomac, c'est ce qui est précisé.
Alors ça, c'est la version de Manuel Araya. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans l'affaire de la mort de Pablo Neruda, il y a plusieurs versions qui se contredisent. Mais en tout cas, il y a un dénominateur commun dans plusieurs versions, c'est effectivement l'histoire d'une une piqûre, une injection. Mm-hmm. Mathilde Urrutia, donc l'épouse de Neruda, raconte dans son autobiographie, que je cite aussi dans mon livre, c'est une autobiographie qui a été publiée après sa mort, en 1986, elle raconte que Pablo Neruda aurait reçu une piqûre. Mais Mathilde Urrutia parle d'une piqûre le 22 septembre et elle parle d'un calmant, parce que Pablo Neruda aurait été furieux d'apprendre que beaucoup de personnes étaient tuées, en fait, après le coup d'État de Pinochet. Et ce qui est aussi très intéressant, j'ai découvert aussi lors de mon enquête, j'ai retrouvé plusieurs articles de l'époque, dont certains qui étaient inconnus jusqu'à présent. Et dans un article, d'ailleurs d'un journal de droite, et qui a, disons, plus ou moins soutenu le coup d'État, elle Mercurio. Dans ce journal aussi, le journaliste raconte que Pablo Neruda a reçu une piqûre. Donc effectivement, c'est vraiment l'une des questions. Est-ce que Pablo Neruda a reçu une piqûre ? Si oui, de la part de qui ? De quel médecin ? Quelle infirmière ? Et que contenait cette piqûre ?
Et est-ce que ça a un lien, effectivement, avec son décès? Alors, Pablo Neruda était un poète, mais il était aussi engagé politiquement. Il a été candidat à l'élection présidentielle de 1970. Il était proche de Salvador Allende et un fervent opposant à Augusto Pinochet. Est-ce que derrière sa mort, on peut y voir la main de la dictature militaire? C'est ce qu'on lit.
Alors, en fait, là, eh ben, c'est vraiment... pour l'instant, on ne sait pas. C'est-à-dire que l'enquête judiciaire est ouverte depuis 2011. Ça fait 12 ans. Et il n'y a pas encore eu de verdict qui a été rendu. Donc, en fait, moi, mon livre, c'est vraiment une enquête journalistique où je ne prends pas parti. Je raconte vraiment les détails de l'enquête et de mon enquête. Ce qui est sûr, c'est que la famille de Pablo Neruda, comme son neveu, Rodolfo Reyes, crie à l'assassinat. C'est ce qu'a fait Manuel Araya jusqu'au dernier jour de sa vie. Ça, c'est effectivement une thèse. C'est aussi la thèse du Parti communiste chilien, que Pablo Neruda a été assassiné parce qu'il était un opposant à Augusto Pinochet. Et effectivement, ça c'est aussi une certitude, Pablo Neruda allait partir au Mexique. Et ce qu'a toujours dit Emmanuel Araya, c'est que du Mexique, Pablo Neruda allait, selon lui, si vous voulez, mettre en place une résistance chilienne contre Pinochet. Et Pablo Neruda, c'était pas n'importe qui, c'était quelqu'un qui était extrêmement connu. Il avait obtenu le Nobel de littérature en 71. C'était un poète connu dans le monde entier, un diplomate aussi. Il avait été ambassadeur de France entre 71 et 73. Donc effectivement, si Pablo Neruda était parti au Mexique, alors il y a beaucoup d'hypothèses, et c'est ça qui fait tout le sel du livre, c'est qu'il y a beaucoup de mystères encore et de non-dits. Et s'il avait mis en place une résistance, on peut imaginer qu'il aurait eu un certain écho dans le monde.
Alors, lors de ces funérailles, des millions de personnes étaient présentes. Vous avez vécu au Chili. Comment les Chiliens le considèrent, le perçoivent-ils ?
Alors Pablo Neruda, c'est sûr, c'est un immense écrivain avec un héritage culturel qu'on peut pas nier. Il y a deux Chiliens, alors un Chilien et une Chilienne, Gabriela Mistral, qui ont obtenu le Nobel de littérature. Donc c'est une grande figure culturelle. Et puis c'est sûr que quand il y a des rebondissements aussi dans cette enquête, alors ça n'a pas toujours fait la une de la presse, mais c'est vrai que là en 2023, quand des experts scientifiques ont rendu leur rapport à la juge, là c'est vrai que la presse chilienne s'est largement emparée aussi du sujet. Donc c'est une personne dont on parle encore aujourd'hui beaucoup au Chili, et avec aussi le fait que sa mort reste non élucidée. Et le Chili s'apprête à commémorer d'ici quelques jours les 50 ans du coup d'État. Et ça vraiment, beaucoup de Chiliens en parlent. Il y a encore beaucoup de débats sur les circonstances du coup d'État. Et il y a des personnes qui soutiennent le coup d'État, qui soutiennent Augusto Pinochet, et un président actuel de gauche et son gouvernement, évidemment, qui ne soutiennent pas du tout ce qu'a fait Augusto Pinochet.
Dans la nuit du 22 au 23 août 1791, éclatait une violente insurrection à Saint-Domingue, colonie française des Antilles. La plus grande révolte d'esclaves de l'histoire mondiale mènera à l'abolition de l'esclavage et l'indépendance d'Haïti. Dans « Les Vengeurs du Nouveau Monde, l'histoire de la révolution haïtienne », Laurent Dubois raconte ce combat pour la liberté.
C'est la plus grande révolte d'esclaves de l'histoire et elle a mené à l'abolition de l'esclavage et à l'indépendance d'Haïti. Il y a 232 ans, dans la nuit du 22 au 23 août 1791, une violente insurrection éclate à Saint-Domingue, colonie française des Antilles. Dans son livre « Les Vengeurs du Nouveau Monde, histoire de la révolution haïtienne », Laurent Dubois, professeur à l'Université de Virginie, retrace ce combat pour la liberté. Il revient au micro de Sylvie Noël sur les racines de cette révolution.
La mortalité des esclaves était si haute qu'il y avait une importation très très intensive, presque 40 000 par an dans les dernières années avant la Révolution. Ce qui voulait dire qu'en fait la majorité des esclaves à Saint-Domingue au moment du début de la Révolution sont nés en Afrique, d'une population de majorité africaine, avec aussi des créoles, donc des personnes qui sont nées aux Amériques.
Alors on a principalement des esclaves qui sont nés en Afrique et qui sont arrivés à Saint-Domingue. Donc, ce qui veut dire que ces 400 000 esclaves sont d'une grande diversité, que ce soit d'origine, que ce soit de religion.
Et de langue, de religion, aussi de vision politique, puisqu'ils viennent de différents systèmes politiques en Afrique. Il y en a beaucoup qui ont aussi de l'expérience militaire, qui étaient combattants en Afrique dans des guerres civiles, qui étaient nourris par la traite esclavagiste.
Vous écrivez dans votre livre que cette révolution haïtienne fut à bien des égards une guerre africaine.
Oui, tout à fait. Et en plus, il y en avait quand même bon nombre qui étaient arrivés à Saint-Domingue, peut-être il y a un ou deux ans avant la révolution. Donc leur propre vie s'était déroulé jusqu'à là dans des contextes africains. Donc je pense que ça, c'est important de se mettre un peu dans cette perspective-là. Et aussi parce que ça met en avant le succès de la révolution, c'est-à-dire de créer dans des conditions telles une unité, une poursuite collective d'un projet politique est aussi très remarquable finalement, je pense. Ouais,
de cette hétérogénéité a émergé une unité, une osmose.
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, ça c'est remarquable finalement, parce que simplement les difficultés linguistiques, culturelles, religieuses à surmonter cette diversité, cette complexité, pour poursuivre un projet collectif de libération contre, finalement, des armées, des forces très, très, très fortes, etc. Donc ça, c'est remarquable. Je pense qu'il faut s'attarder un peu sur cette réussite qui est quand même une des histoires les plus remarquables révolutionnaires dans l'histoire du monde.
Et en conclusion, cette révolution haïtienne, vous dites qu'elle a transformé le monde de manière radicale et définitive, que c'est un moment clé dans l'histoire de la démocratie dans le monde ?
Absolument, parce que pour moi, c'est un fondement dans l'histoire de l'idée de l'universalisme. C'est-à-dire parce qu'en fait, la Révolution française, la Révolution américaine avant, avaient déclaré des droits universels, mais ils ont tous les deux finalement accepté l'esclavage. Et aux États-Unis, ils ont bien sûr accepté la continuation de l'esclavage. C'est grâce à la Révolution haïtienne qu'on a une expansion quand même très très importante dans ce qu'on veut dire quand on dit que les droits sont universels. Et donc dans l'histoire de la démocratie, puisque c'est là que finalement on se confronte à l'esclavage et avec succès. Et en fait, c'est la France en fait qui est le premier pays qui abolit l'esclavage, mais après Napoléon le rétablit, c'est Haïti qui est vraiment le premier pays qui, pour la longue, enfin en permanence, abolit l'esclavage. Et là, je pense que c'est important pour l'histoire de l'esclavage des Amériques, mais c'est important aussi pour notre compréhension de comment on développe nos idées que les droits humains sont finalement, devraient être universels et s'appliquent à tout le monde.
Merci beaucoup Laurent Dubois.
Merci.
Laurent Dubois, auteur des Vengeurs du Nouveau Monde, histoire de la Révolution haïtienne.
Et ainsi se termine ce programme en français de Ra et l'Argentine vers le monde. On se retrouve dans une semaine.